Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord les titres. L'OMS alerte sur un risque élevé pour les communautés touchées par une maladie inconnue dans la zone de Panzi, dans l'ex-Bandundu. En tout cas, dans un communiqué publié récemment, l'agence sanitaire onusienne juge élevé le niveau de risque. Le débat sur la révision ou changement de la Constitution continue son bon nombre de chemins. Dans ce journal, le point de vue du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et celui du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble pour le changement. Notre invitée est la présidente de la Chambre des mines du Nord Kivu et directrice générale de Kivu Mine Mineral Ressources. Madame Yvette Mwanza va nous parler des difficultés qu'éprouvent certains comptoirs d'achat des minerais à Goma à ce jour. Encore une fois, bonjour. Alerte à la maladie qui sévit dans l'ex-Bandundu. C'est l'OMS qui lance ce cri d'alarme dans un communiqué. L'Agence sanitaire mondiale de l'ONU indique en raison de l'éloignement de la zone touchée, des obstacles logistiques et de l'insécurité dans cette région reculée, le risque reste élevé. L'organisation note encore que cette zone du Kwango rural est isolée et son accès encore plus difficile en raison de la saison de pluie. Et à cela, il faut ajouter des dizaines de morts déjà enregistrées. Le point avec Gisèle Cage.
L'agence onusienne estime qu'il faut 48 heures pour atteindre Panzi par la route depuis la capitale Kinshasa. Ces difficultés associées au manque de moyens de diagnostic dans la région ont retardé l'identification de la cause sous-jacente de cette maladie, indique le communiqué de l'ONU publié le 9 décembre. L'insécurité dans la région ajoute un autre niveau de complexité à la réponse poursuit ce communiqué. La possibilité d'attaque par des groupes armés constitue un risque direct pour les équipes d'intervention et les communautés, ce qui pourrait perturber davantage l'intervention selon l'OMS. La combinaison de ces facteurs rend la réponse complexe et pose un risque élevé pour la population touchée. Entre le 24 octobre et le 5 décembre 2024, la zone de santé des Panzi, dans la province du Kwango, a recensé 406 cas d'une maladie inconnue, dont 31 décès. Cette mystérieuse maladie affecte particulièrement les jeunes, avec 40% des cas déclarés chez des enfants de moins de 5 ans. Les premières données indiquent que les symptômes ressemblent à ceux de la grippe, forte fièvre, maux de tête, toux, écoulement nasal et courbature.
Préparatif des fêtes de fin d'année, le gouvernement s'implique. Un procès-verbal de compromis a été signé hier lundi à Kinshasa entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les principales sociétés importatrices de produits de première nécessité. Cet accord vise à garantir la baisse immédiate des prix des produits de première nécessité tout en préservant la viabilité économique des entreprises impliquées. Les prix revus à la baisse seront d'application à partir de ce mardi. Il s'agit des prix des denrées alimentaires suivantes, la viande, la volaille, le chinchard, le poisson salé, le lait en poudre, le riz, la farine de maïs et le sucre. Écoutez à ce propos le ministre de l'économie Daniel Moukoko au micro de Blaise Makassi.
Ce qui rend le prix cher dans ce pays, c'est les multiples prélèvements de différents services publics qui s'alignent sur le cordon douanier, ajoutant au prix d'achat, aux fret et à l'assurance X% la tonne. Et finalement, celui qui paye la facture, c'est le consommateur. Ce que le chef de l'État avait voulu, c'est des mesures courageuses du gouvernement afin de redonner du pouvoir d'achat à la population. C'est ce que nous avons fait. C'est le premier palier. C'est un effort qu'il faut poursuivre pour qu'on ait des prix justes, qui puisse satisfaire les consommateurs, mais qui puisse aussi satisfaire les opérateurs économiques. Le ministère de l'économie va continuer ce travail pour s'assurer que la baisse au niveau des grossistes se répercute jusqu'au niveau des détails. Il ne faut pas laisser ça au seul gouvernement, la société civile, les différentes associations, protégeons ces mesures parce qu'elles vont dans l'intérêt général de la population congolaise.
Notez que ce compromis fait suite à la signature par la première ministre du décret du 19 septembre 2024 qui suspend la perception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et réduit les taux des droits, taxes et redevances appliqués sur les produits de première nécessité. Politique à présent, le débat sur la Constitution fait toujours couler beaucoup d'encre de salive en RDC. Nous vous proposons la réaction du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble pour le changement qui s'oppose à toute initiative de révision ou de changement de la Constitution. Pour ce groupe, l'opinion avertie observe que le président de la République prend la Constitution comme bouc émissaire afin de justifier de sa gouvernance et contourner l'article 220 pour briguer un troisième mandat. Il a déclaré hier lundi au Palais du Peuple pour le président de ce groupe parlementaire, au lieu de se concentrer sur la recherche de la paix, la cohésion nationale, l'intégrité du territoire et la démocratie, le pouvoir en place connaît une dérive dictatoriale avec le musellement de l'opposition et de la presse, les arrestations, les assassinats, menaces, corruption et j'en passe. Christian Mwadzotsimba, Kaboulo.
En cette période de guerre dans notre pays, la priorité pour le chef de l'État devrait être la recherche de la cohésion nationale et le rassemblement de tous les Congolais afin de faire front pour recouvrer la paix et l'intégrité de notre territoire plutôt que de diviser notre peuple avec un débat inopportun sur la Constitution. Aucun article de la Constitution en vigueur n'empêche le président de la République et sa majorité de résoudre les problèmes graves et urgents auxquels notre pays est confronté. Face à cette situation, le groupe parlementaire de l'opposition recommande au président de la République de renoncer à son projet inopportun et de se consacrer à son rôle de garant de la nation. Le groupe parlementaire Ensemble appelle le peuple congolais à faire barrage à ce projet macabre qui risque de consacrer la balkanisation de notre pays dont une partie reste occupée à ce jour.
Place à présent à la position du président de l'Assemblée nationale. Selon Vital Kamerhe, le débat sur la révision de la Constitution n'est pas un tabou, d'autant plus que son article 118 donne le pouvoir au président de la République, gouvernement et au Parlement. Il a affirmé hier lundi, à la sortie de la réunion interinstitutionnelle avec le chef de l'État sur la préparation du congrès de demain mercredi portant sur l'audition du discours sur l'état de la nation. Pour Vital Kamerhe, le moment viendra où chaque force politique aura la liberté de s'exprimer sur la question au sein de la commission spéciale annoncée par le président Félix Tshisekedi et qui sera composée tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que de toutes les forces vives de la nation. Suivons Vital Kamerhe.
En cette période de guerre dans notre pays, la priorité pour le chef de l'État devrait être la recherche de la cohésion nationale et le rassemblement de tous les Congolais.
Voilà, nous suivrons Vital Kamerhe dans nos prochaines éditions. C'est un dossier signé Michel Kifindangoy. Dispositif sécuritaire renforcé depuis quelques jours à Massimanimba, dans la province du Kwilu. Cela en prélude des élections du 15 décembre prochain. Il s'agit particulièrement de l'arrivée de plusieurs vagues de policiers et des forces armées de la République démocratique du Congo au chef-lieu du territoire. L'administrateur de cette entité, Emery Kanguma, qui le dit, invite la population au calme et à ne pas céder à la panique. Le point avec Irène Mbomaluzolo.
À en croire l'administrateur du territoire de Massimanimba, la présence très remarquable ces derniers jours des éléments des forces de l'ordre et de sécurité dans ces coins de la province du Kwilu rentre dans le cadre de la sécurisation du processus électoral après le débâcle du 20 décembre dernier. Ne seront arrêtés par ces policiers et militaires de FARDC venus notamment de Bandundu et de Kikwit que ceux qui tenteront de saboter les élections partielles prévues le 15 décembre 2024, a expliqué Emery Kanguma qui appelle la population à ne pas paniquer.
La présence de militaires ou policiers ici à Massimanimba, simplement pour la sécurisation de nos élections. Comme vous connaissez bien, nos élections étaient émaillées de plusieurs problèmes. Nous, comité de sécurité local, avec la CENI, nous nous sommes décidés de très bien sécuriser nos élections. Le pays a déboursé beaucoup d'argent pour réorganiser ces élections. Et on n'acceptera pas que quelqu'un vienne saboter ces élections. Ceux qui tenteront de saboter ces élections trouveront la police dans leur chemin. J'appelle la population à ne pas céder à la panique, qu'ils soient calmes.
Rappelons que la campagne électorale débutée le 13 novembre dernier à Massimanimba se clôture le 13 décembre. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
La RDC doit impérativement démontrer qu'elle est en mesure de défendre les droits humains sur son territoire avant de prétendre donner l'exemple à l'échelle internationale. C'est la déclaration du collectif des ONG de défense des droits de l'homme à l'occasion de la commémoration aujourd'hui du 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce collectif dresse un tableau sombre des violations de droits et libertés fondamentaux en République démocratique du Congo, interpelle et invite le gouvernement congolais à servir de modèle en respectant ses engagements internationaux. Enlèvement, arrestation et détention arbitraire, torture physique et morale, répression des manifestations pacifiques, autant d'abus que dénoncent sept ONG de défense des droits de l'homme. Parmi elles, Outre-Neuve, Asbel de Madame Charlène Yangazo formule quelques recommandations au micro de Jeff Ngoy.
Face à ce constat accablant, les collectifs des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme exhortent la communauté internationale et les Nations Unies à réexaminer l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme, sauf si des mesures concrètes et immédiates sont prises pour respecter les droits humains dans le pays. Appelle les autorités congolaises à mettre fin aux violations de droits humains et à appliquer strictement les dispositions de la Constitution et des lois nationales en la matière. Invite les partenaires internationaux à renforcer les mécanismes de surveillance et de soutien en faveur des droits humains en République démocratique du Congo. La RDC doit impérativement démontrer qu'elle est en mesure de défendre les droits humains sur son territoire avant de prétendre donner l'exemple à l'échelle internationale.
Le groupe Martin Luther King lui appelle les autorités et les organisations de droits de l'homme à prévenir et à lutter contre les crimes du génocide. Cet appel a été lancé hier à Goma, dans le Nord Kivu, à l'occasion de la journée internationale pour commémorer les victimes du génocide célébrée chaque 9 décembre. Dans un communiqué de presse rendu public à cette date, cette association congolaise pour la non-violence active des droits humains, la paix et la réconciliation tient à sensibiliser l'opinion autour de cette question au regard des crimes et des atrocités qui sont enregistrés à l'est de la RDC à la suite des conflits armés. Christophe Moutaka, directeur du groupe Martin Luther King, basé à Goma, l'a dit au micro de Sifa Magourou.
Comme vous le savez, dans plusieurs pays du monde, notamment en Palestine, en Ukraine, en République démocratique du Congo, au Sud-Soudan, il y a des actes similaires ou des actes de crimes de guerre et de crimes de génocide. Et donc, ces crimes-là doivent être sanctionnés. Les auteurs doivent être sanctionnés parce que sans cela, l'impunité va continuer son bonhomme de chemin et cela n'est pas possible. Et donc, compte tenu de cela, nous avons publié ce communiqué de presse pour sensibiliser.
Et puis, nouvelle incursion des miliciens Mobondo à quelques kilomètres du village Aviation dans le territoire de Kouamout. Au moins 10 personnes ont été brûlées vives, 9 ont survécu au feu et plusieurs blessés signalés. Ces personnes ont été prises en otage et enfermées dans une maison par les miliciens qui ont mis feu. Les 9 survivants portent des brûlures profondes et sont pris en charge à l'hôpital général de référence de Kouamout. Le député national élu de Kouamout qui livre l'information indique que le nombre total des blessés reste inconnu. Guy Moussomo invite le gouvernement à prendre des mesures définitives pour éradiquer ce phénomène. Il a été joint au téléphone par Irène Mbomaluzolo.
Oui, effectivement, il y a un village qui a été attaqué vers 4h du matin par les miliciens Mobondo à la ferme Bukamukua, non loin du village Aviation sur la rivière Koua. Quand ils sont arrivés, ils ont pris en otage des personnes qu'ils ont trouvées là sur place. Ils les ont enfermées dans une maison et ils ont incendié cette maison-là. Alors, on a retrouvé 10 corps calcinés. Mais il y a eu d'autres personnes qui sont sorties de cette même maison, mais avec des brûlures. 9 personnes, ils sont maintenant internés à l'hôpital général de Kouamout. Mais il y a aussi des blessés avec le coup de fusil. Le nombre n'est pas connu. Même le nombre des disparus aussi n'est pas connu. Le gouvernement congolais avait pris à bras le corps le problème. Il y a eu même un cahier des charges signé en présence du chef de l'État lui-même. Alors nous demandons au service de sécurité de faire le boulot qu'il faut, de trouver qui sont les vrais instigateurs de ces problèmes-là. Puisque jusqu'à présent, nous ne comprenons absolument rien. Pourquoi cette persistance, on ne sait pas.
Sécurité encore, le leader du groupe armé Mai Mai Lamouka et 10 autres miliciens capturés depuis dimanche par les FARDC en Ituri. À cela, il faut ajouter une importante quantité d'armes et munitions récupérées. Ceci entre dans le cadre des opérations lancées par les forces loyalistes dans le territoire de Mambasa, déclare le porte-parole de l'armée en Ituri. Pour la société civile locale, ces hommes armés se sont rendus eux-mêmes. Cette structure demande à d'autres groupes armés locaux d'emboîter leurs pas pour la consolidation de la paix dans cette entité. Reportage Isaac Remoyope.
Le général autoproclamé connu sous le sobriquet de Mangalibi et une dizaine de ses hommes ont été appréhendés vers Bandegaïdo dans les territoires de Mambasa, rapporte l'armée. Son porte-parole à Ituri indique que c'est suite à une pression militaire exercée dans le cadre des opérations lancées depuis le 29 novembre dernier. Le lieutenant Gilles Ngongo ajoute que la traque de l'ennemi, dont les ADF et d'autres milices locales, se poursuit pour pacifier totalement cette région.
Aujourd'hui, les forces armées ont arrêté un grand chef de guerre des Mai Mai, auteur de plusieurs atrocités. La province de l'Ituri va vers sa stabilité et la fin de la guerre. Nous allons continuer dans cet élan pour neutraliser complètement les auteurs de l'insécurité en Ituri pour tourner la paix à nos populations.
La société civile de Mambasa parle plutôt de la reddition de ses hommes armés, une décision saluée par la population qui s'est dit lassée des exactions de plusieurs milices actives dans ces territoires. Son président lance un appel à d'autres groupes armés de déposer les armes. Mungeni Imurani.
Il a accepté, ça se battre, venir déposer les armes. Pour nous, c'est déjà la paix. Tous les Mai Mai qui sont à Mambasa, ils doivent emboîter la voie des Mangaribi.
Ces miliciens sont accusés d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme dans les territoires de Mambasa. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Sitôt Assad renversé, l'Europe suspend l'examen des demandes d'asile des réfugiés. À peine le président Bachar al-Assad chassé du pouvoir, le débat sur l'accueil des réfugiés syriens a ressurgi hier lundi en Europe. Plusieurs pays, dont l'Allemagne, annonçant un gel des procédures de demande d'asile pour les exilés de ce pays. Le ministère de l'Intérieur français a indiqué travailler sur une suspension des dossiers d'asile en cours provenant de Syrie.
L'invité.
Notre invitée est la présidente de la Chambre des mines au Nord Kivu et directrice générale de Kivu Mineral Resources. Madame Yvette Moinza nous parle des difficultés qu'éprouvent certaines entités de traitement et comptoirs d'achat des minerais à Goma depuis l'occupation de la cité minière de Rubaya par les rebelles du M23, plus d'une année maintenant. Madame Yvette Moinza dans cet entretien avec Denise Lukeso. Suivez.
Madame Yvette Moinza, bonjour.
Bonjour Madame Denise Lukes.
Ça fait pratiquement plus d'une année que la zone de Rubaya est occupée par la rébellion. On sait que Rubaya est l'un des poumons aussi importants dans la production des différents minéraux, notamment le coltan. Aujourd'hui, certaines entités de traitement dans la ville de Goma ont carrément fermé et d'autres sont en difficulté de fonctionnement. Vous, comme une des entités, comment vous fonctionnez aujourd'hui?
Depuis la résurgence du mouvement M23 au Nord Kivu, depuis le mois de juillet 2023, Kivu Mineral Resources avait déjà levé l'option de diversifier ses sources d'approvisionnement et c'est pourquoi nous avons commencé déjà à nous approvisionner en province du Maniema, principalement dans le territoire de Pangi, à Kalima et dans le territoire de Kailo, Pounia aussi, principalement à Kasese et autour de Chamaka.
Et la quantité du Maniema, ça couvre vos besoins?
Oui, le Maniema a un grand potentiel en minerai de 3T, surtout pour la castérite, la wolframite. Seulement, la dépense difficile à couvrir, c'est le fret aérien. Mais en termes de volume, tout ce que vous voulez, vous pouvez en obtenir. Il y a des minéraux de très bonne qualité qui viennent du Maniema et nous procédons par évacuation par voie aérienne pour que nous puissions collecter toutes ces quantités ici. Nous commençons toutes les formalités d'exportation, mais le paiement de toutes les taxes se fait au Maniema pour participer et contribuer à la capacité contributive de cette province-là.
Et comment s'est fait cet approvisionnement?
Donc, il faut d'abord écrire au gouverneur des provinces, solliciter une autorisation de transférer le minerai. Vous devez préciser la quantité et la provenance. Quand le gouverneur vous répond positivement, vous devez payer tous les frais liés au transfert du minerai. Le CSC va vous donner le formulaire de transfert. Le ministre provincial vous donne l'autorisation de transfert aussi. Vous payez toutes les taxes dues et vous pouvez procéder au chargement dans un aéronef.
Vous estimez à combien de tonnes déjà que vous êtes approvisionné à partir du Maniema?
Depuis le mois de juillet de l'année passée, on est au-delà de 200 tonnes. Mais aussi, je devais mentionner quelque chose d'important. Le territoire du Walikale aussi est encore sous contrôle du gouvernement. Donc, nous nous approvisionnons aussi à Walikale. Avec la prise de Moucha qui parle M23, on ne peut plus faire la route Walikale-Massissi. Donc, il faut faire juste le trajet avec un avion.
Une fois que vous êtes approvisionné au Maniema, vous, comment vous faites l'exportation à partir du Kivu?
Quand nous avons la quantité ici, il faut procéder au traitement pour éliminer les impuretés et obtenir un lot qui répond à la demande de l'acheteur et aussi qui est conforme à la nomenclature de produits miniers marchands en vigueur en République démocratique du Congo. Donc, il y a des seuils de teneur qu'on ne peut pas violer pour être éligible à l'exportation. Après avoir préparé le lot, nous saisissons les autorités du Maniema pour leur informer que nous sommes prêts à exporter les lots et nous faisons la déclaration d'origine. Il y aura une note de débit qui sera émise. Nous payons tout ce qui est dû à l'État, la redevance minière, la quotité du trésor public, la quotité de la province, la quotité du secteur. Ce qui revient au Fomine et au Fonarev, on paye. Et dès que la documentation est ici, le camion peut quitter la RDC.
Et ce n'est pas coûteux pour vous, cet approvisionnement à l'extérieur de la province?
C'est quand même coûteux, mais on n'a pas le choix. Vous savez, être une entité de traitement, vous payez la redevance administrative anticipative. Donc, il faut essayer d'amortir toutes ces dépenses-là. Si vous restez, vous croisez les bras, donc vous risquez de travailler à perte. Donc, il faut fonctionner quand même, arriver à s'approvisionner et vendre, trouver le moyen de survivre en attendant que la sécurité revienne chez nous en province du Nord Kivu.
À part le Maniema, il y a une autre zone où vous vous approvisionnez aussi?
Oui, depuis le mois de novembre, nous avons aussi commencé à nous approvisionner à partir de Chabunda. Il y a eu même une mission de contrôle du site Kivu qui est passée ici et nous avons montré toutes les preuves que nous sommes acquittés de ce qui est dû.
C'est quel minéraux notamment que vous
approvisionnez? Pour le Maniema, on s'approvisionne en castérite et wolframite. Il y a aussi du coltan que nous allons commencer aussi à acheter à partir de là. Au niveau du sud Kivu, il y a principalement la castérite, mais nous avons aussi sollicité une autorisation aussi pour évacuer le coltan à partir de Chabunda.
Madame Yvette Moza, Radio Kapi, vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Denise Lucas.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebujangwe, à Jean-Désiré Kanyama et à Polydor Basunga. Bon après-midi à tous.